Thomas Negaroff, Aretha Franklin, c'est une histoire de l'Amérique.
Oui, et ne serait-ce déjà que par cette ville de Détroit. Il faut dire qu'elle n'est pas née à Détroit, hein. Sa famille vient de Memphis. Et ce trajet du sud, Memphis, Tennessee, ce trajet du sud des États-Unis vers le nord pour fuir la ségrégation raciale, ça dessine déjà un itinéraire qui dépasse et de loin celui d'une petite fille devenue l'une des plus grandes voix, peut-être même la plus grande voix de la chanson, de la soul américaine. Elle est née en 42. Elle est venue avec son père, et son père, pasteur, était aussi un militant des droits civiques. C'était quelqu'un qui, vous savez, on a quasiment fêté, là, il y a quelques jours, l'anniversaire du discours de I have a dream, vous savez, le discours de Martin Luther King. Eh bien, cette même marche, elle avait été organisée à Détroit par le père de Aretha Franklin. Donc oui, il y a une dimension historique très forte. Grégory rappelait il y a un instant Rosa Parks, hein, sur place. Rosa Parks, d'ailleurs, elle fait le pont avec l'autre cérémonie qu'on suit en même temps. Elle est au Capitole, parce que au Capitole, à Washington, on pleure John McCain. C'est très rare qu'un corps soit exhibé comme ça au Capitole. Il y en a eu très peu. Il y a eu John Kennedy. Il y a eu aussi Rosa Parks, vous voyez. Rosa Parks, on la retrouve dans les deux moments en ce moment de recueillement aux États-Unis.
Et Rosa Parks, d'ailleurs, cette cérémonie en 2005, Aretha Franklin avait chanté. C'est aussi la voix des événements américains de ces dernières années, les investitures de Bill Clinton, qui sera là cet après-midi à Détroit, de Barack Obama, évidemment.
Et de Jimmy Carter, qu'on oublie toujours. Elle a chanté pour trois présidents démocrates, hein. C'est quand même pas rien. Elle a chanté l'hymne national, pas à n'importe quel moment. Elle l'a chanté, par exemple, lors de la finale du foot américain, le Super Bowl, qui est l'événement le plus télévisé, le plus suivi à la télévision aux États-Unis. C'est une voix qui a accompagné les Américains, qui a accompagné les luttes américaines, des femmes, des minorités africaines américaines. La chanson Respect est devenue un hymne extrêmement fort pour cette population-là. C'est effectivement une voix très importante qui s'éteint.
La bande-son d'une vie pour beaucoup d'Américains, puis la bande-son d'un pays presque. Hein.
Oui, c'est vraiment cela. D'ailleurs, on fait souvent le lien, on dit, il y a James Brown en homme et elle en femme, sauf que James Brown est toujours resté l'icône des Africains-Américains. Elle a vraiment cassé des frontières, elle a cassé des barrières entre les générations, entre les sexes, entre les races aussi, comme les Américains disent race, hein, je suis désolé de le dire, mais entre les races aussi. C'est effectivement une personnalité incroyable qui aura marqué 50 ans quasiment de chansons américaines.
Avec un père militant et des succès qui sont survenus au cœur du débat sur la ségrégation, sur le racisme dans les années 66, 67, 68, avec des enregistrements dans le sud, avec des musiciens blancs, là aussi il y avait des moments forts avec des enregistrements qui ont dû être interrompus parce qu'il y avait des crises et des violences, hein, entre la chanteuse et ses musiciens.
Même si elle s'est toujours défendue d'être une militante elle-même, le fait même d'exister, le fait même de chanter a fait d'elle une actrice majeure de cet événement extraordinaire de ce siècle passé aux États-Unis, qui est la déségrégation, l'intégration des différentes races. Un combat inachevé. Vous savez qu'elle avait refusé de chanter pour Donald Trump lors de son investiture. Elle avait même dit, quel que soit le montant qu'on m'offre, jamais je chanterai pour Donald Trump. Voilà encore qui relie les deux événements qu'on suit en ce moment, puisque John McCain aussi a refusé la présence de Donald Trump.